Ouais, Daniel, c'est Hafiz, 17-4, Haute-Savoie représente. Faites-moi, je t'appelle pour entendre ma voix demain au répondeur si j'y suis. Voilà. Je pense qu'on est pas mal dans ce cas, alors il y en a qui déguisent ça sous des messages débordants d'émotions, de colère, de prise de position, de calcul à la con sur le prix d'une guerre. Moi, j'appelle, et je vais être honnête, c'est pour m'entendre parler demain sur France Inter, comme ça je pourrais me la péter auprès de mes potes à la Tessie. À très bientôt, Inch'Allah tu me passes demain, hein, cousin.
Alors, je vais donner une information que j'ai eue non pas par France 2 ni par France Inter, mais que j'ai lue dans le Canard Enchaîné. 780 personnes sont mortes en France l'an dernier sur leur lieu de travail. 135 000 ont été victimes d'un accident, selon le rapport de l'Organisation internationale du travail. Et curieusement, pas un seul patron parmi les victimes. Et je rajoute, pas un seul patron en prison. Au contraire, on les protège. On envoie les CRS pour les protéger. Allez, au revoir. C'était Jacqueline. Au revoir.
Eric, Association Alice et Comité d'initiative citoyenne à Fayence dans le Var. Aujourd'hui, mercredi 29 septembre, 59e jour que Lulu, Papat et Patricia, SDF à Saint-Raphaël, sont sur un terrain vague, otages de l'administration, sans eau et sans électricité. Tant qu'ils sont otages, Lulu, Papat et Patricia, nous le sommes aussi. Lulu, Papat et Patricia ne sont pas le journaliste. Tous les lundis à 19h, on est devant la gare de Saint-Raphaël. On a une douche jaune qui clignote. Ciao vive, portez-vous bien.
Bonjour, c'est Charlotte du Pas-de-Calais. Alors, un petit message. Je viens de lire la lettre d'information aux employeurs de personnel de maison, éditée par les URSSAF du Nord-Pas-de-Calais. Et j'ai trouvé quelque chose de très intéressant, alors je crois que je vais les lire plus souvent. D'habitude, je ne les lis jamais. Eh bien, savez-vous, Français, que vous pouvez accueillir un stagiaire, un jeune étranger de 18 à 30 ans, venu en France pour étudier. Vous l'accueillez dans votre famille, et en contrepartie du gîte et du couvert, il assure au maximum 30 heures hebdomadaires de tâches familiales. J'aimerais bien savoir quel est l'étudiant qui peut effectuer 30 heures hebdomadaires de tâches familiales, contre le gîte et le couvert. Ça serait pas de l'esclavage, ça? Allez, bye bye, à bientôt.
Salut Daniel, c'est Erwan de Brest. C'était pour la cagnotte, les 140 milliards de dollars dépensés par les États-Unis. Eh bien, en calculant, on pourrait offrir 3 900 $ aux 36 millions d'Américains qui vivent dans le seuil de la pauvreté. C'est énorme. 3 888 $ en tout, c'est énorme. Mais bon, tout va se passer ailleurs, quoi. Allez, salut.
Oui, Monsieur Mermet, vous venez de passer une émission sur un analyste de la situation en France, mais aussi sur le plan mondial. J'aimerais que vous redonniez demain, c'est-à-dire jeudi 30, le titre des livres que vous avez donné à l'antenne. Je vous remercie. Évidemment, ne passez pas ça à l'antenne. Je vous remercie.
Oui, bonjour Daniel, bravo pour votre émission d'hier et l'intelligence de votre interlocuteur. C'est une politique à suivre, hein. C'est la seule qui nous permette de faire des économies et c'est la seule économie qui ne coûte pas cher en fait parce qu'on peut se débarrasser d'une télé. Alors une télé au lieu de trois, c'est déjà des économies. Et j'ai découvert un journal qui s'appelle justement La Décroissance cet été. Et je vous en donne les coordonnées, ça pourra toujours être utile. Et on peut s'y abonner, bien sûr. Hein. Donc, c'est La Décroissance, et je recherche l'adresse, c'est 11 Place Croix-Paquet, 69001 Lyon. Ça s'appelle Casseur de Pub, 11 Place Croix-Paquet, 69001 Lyon. Merci et continuez.
Voilà, La Décroissance, c'était le thème de l'émission d'hier avec Serge Latouche. Alors, vous êtes très nombreux à avoir demandé des précisions, à avoir manifesté votre intérêt pour Serge Latouche et pour cette émission d'hier. Les livres, il y en a beaucoup hein, de bouquins de Pierre Latouche, mais enfin, celui qui a beaucoup été évoqué hier, c'était « Décoloniser l'imaginaire ». La pensée créative contre l'économie absurde aux éditions Parangon, et puis apparaître dans quelques jours aux éditions Mille et Une Nuits, survivre au développement. Ben, la décroissance, il va en être question beaucoup aujourd'hui, puisque, comme je vous l'avais dit hier, on va aller se balader dans le Limousin, sur le plateau de Mille Vaches, à Faux-la-Montagne, à côté de Faux-la-Montagne, dans une entreprise pas comme les autres. On va appeler ça Sillon, puisque c'est une scierie en fait. Sillon travaillait autrement. Oui, vous êtes impatient de savoir à combien on en est de la cagnotte, c'est-à-dire du coût total de la guerre en Irak. Eh ben, j'ai mon chiffre sous les yeux. 140 milliards 910 millions 70 000 dollars. Et je pense que ça va être la question que vont se poser ce soir, enfin, dans quelques instants, nos deux héros, les deux héros actuels qui sont W. Bush et Kerry. Ça va être la grande affaire de la journée, et on en aura des échos d'ailleurs demain dans là-bas si j'y suis. Donc aujourd'hui, Sillon Dubois, et auparavant d'autres messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis, 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, là je viens d'entendre sur ton émission un petit spot publicitaire pour la journée sans achat 26 novembre, un truc comme ça. Bah nous, tu sais, c'est tous les jours la journée sans achat, on n'a pas de pognon nous les RMistes, alors bon. Ben voilà, allez, salut à tout le monde, c'est Nico d'Avignon, ciao.
Suite à une anomalie technique, une grande partie du monde a été détruite. Veuillez nous excuser de ce désagrément momentané. Suite à une anomalie technique, une grande partie du monde a été détruite. Veuillez nous excuser de ce désagrément momentané.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, Sillon travaillait autrement.
Flight number 2, arriving from New York.
Nous faisons tout ce que nous pouvons pour convaincre les Français.
Qui dira aujourd'hui une vision humaniste de l'économie.
Qui fait du travail quelque chose qui est un allié de l'homme et non pas l'adversaire.
On ne fait pas assez d'efforts dans notre pays pour faire partager le goût du travail et le besoin.
Aller voir ce que c'est que le monde du travail, préparer son intégration, entrer dans l'entreprise.
Il existe un autre monde, mais il est dans celui-ci. Il existe un autre monde, mais il est dans celui-ci. C'est beau, hein? C'est joli. Et celui qui a écrit ça, c'est le grand poète Paul Éluard. Grand poète, mais dont l'étoile demeure ternie pour son soutien à la très totalitaire Union soviétique. Voilà ce qu'était sans doute pour lui, pour ce poète, ici sur Terre, cet autre monde qu'il situait dans celui-ci. Hier, Serge Latouche, avec qui nous parlions de décroissance, à son tour citait le vers de Paul Éluard. Il existe un autre monde, mais il est dans celui-ci. Et évidemment, Serge Latouche ne songeait pas du tout à l'Union soviétique. Il songeait à toutes ses expériences, dont nous ignorons tout, parce qu'elle ne cherche pas toujours à se faire connaître, qui surgissent, persistent, végètent ou réussissent dans notre pays. Des expériences en marge, des expériences alternatives, des façons différentes de vivre, d'exister et de travailler. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, on va sur le plateau de Mille Vaches, au cœur du Limousin, sur la départementale 992 entre Feltin, Creuse et Moutier, Haute-Vienne. Et là, on trouve le village de Faux-la-Montagne, 400 habitants. Et si on quitte le village de Faux-la-Montagne en direction de Limoges, on passe devant une ancienne bâtisse agricole qui s'appelle la Fermerie et qui abrite depuis 1989 une PME de transformation de bois et qui s'appelle curieusement Ambiance Bois. On aperçoit des panneaux qui indiquent les productions, lambris, parquets, bardages, construction de maisons de bois et précise qu'on peut acheter en direct à l'usine. Alors, cette usine, eh bien, elle est particulière. Elle est animée, peuplée de gens un peu particuliers qui vous ressemblent tout à fait, mais qui travaillent différemment, qui ont voulu travailler différemment, établir dans l'entreprise, dans leur entreprise, qu'ils ont créé des relations différentes, la hiérarchie, les décisions, les salaires, le développement de l'entreprise. Finalement, autant de choses, autant d'expériences, autant qui sont... Ah, on va dire, mais attendez, c'est pas la révolution, ça, c'est pas le grand soir, c'est pas cet autre monde qui existerait dans celui-ci, c'est-à-dire un monde totalitairement différent de celui-ci. Non, non, sans doute pas, sans doute pas. Mais en attendant ce grand soir, en attendant, eh bien, vous allez voir, nous on a trouvé que c'était déjà pas si mal, parce que les questions qui sont posées et les réponses qui sont apportées à des questions posées que les gens d'Ambiance Bois se sont posées, mais qui se posent à tous, eh bien, les solutions qu'ils ont apportées méritent quand même qu'on s'y attarde, pour une raison, c'est que ça marche. Hein, il y a eu beaucoup d'expériences, beaucoup d'alternatives, beaucoup d'essais qui ont leur mérite ou non, mais celle-ci, ça marche et ça marche depuis longtemps. Alors donc, on va passer cette heure avec la vingtaine de personnes qui travaillent à Ambiance Bois, et spécialement Marc Bourgeois, Olivier Davigo, Anne Germain, Michel Lulec et Claire Chola, mais aussi tous les autres, qui vont nous raconter comment ils travaillent et vivent à Faux-la-Montagne, si on travaillait autrement. Quand on passe là, c'est une entreprise absolument comme une autre. Hein.
Oh, je pense.
On voit des rondins de bois, des tas de bois, des camions, des voitures arrêtées. Rien qui vous distingue de n'importe quelle entreprise.
Si on reste au bord de la route, oui. Si on commence à descendre, il commence à y avoir des choses un peu curieuses. Parce qu'en fait, c'est très rare de trouver une scierie qui va aussi sécher ses bois, qui va aussi les raboter et qui va aussi construire des maisons en rondins. En fait, ne serait-ce que sur le plan économique, on est déjà un peu curieux parce qu'on fait plusieurs choses qui habituellement sont l'objet de plusieurs entreprises différentes. On fait plusieurs métiers différents, en fait.
D'accord. Là, tu m'emmènes où ?
Alors, en fait, ici, on est au bord de la route.
On l'entend.
Donc, c'est là qu'on reçoit les bois, en fait. On reçoit des bois uniquement du Limousin. C'est un choix qu'on a fait, en fait, d'acheter des bois à 40 km à la ronde à peu près. On refuse les mélèzes de Russie à bas prix. Et,
ça appauvrit les Russes, ça.
Oui, mais ça enrichit les Limousins. le but, c'est de valoriser une richesse locale. On est un peu adepte des circuits courts. À la
le Limousin au Limougeau.
Non, ici c'est une région pauvre. C'est une région qui par certains côtés pourrait faire penser à une économie de pays sous-développé, c'est-à-dire elle a une richesse et la richesse serait exportée et utilisée dans d'autres régions. L'Auvergne a beaucoup acheté des bois limousins. Pourquoi le Limousin valoriserait pas ses propres bois ? Enfin, le plateau de mille vaches en l'occurrence, c'est un peu la réflexion. Quoi. Attention parce que c'est des choses trappent partout.
Ouais.
L'escalier est raide. Edwin, Daniel.
Bonjour, bonjour. En plein boulot là, qu'est-ce que tu fais?
On est en train d'installer la deuxième châssis. Au début, on s'y est avec le premier. Le premier, il sortait planche par planche.
Attends, tu fais rentrer un arbre d'un côté, de l'autre côté, ça fait des planches.
Et ça a sorti les planches comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que le premier, il va faire un noyau pour que ça passe sur la deuxième châssis qui va sortir les planches.
Ah, c'est une nouvelle installation?
C'est la nouvelle installation.
Toi, t'es quoi? T'es mécanicien?
Moi, je suis un mécanicien, oui.
Ah, et depuis quand tu es ici?
Maintenant, ça va faire bientôt 5 ans, le mois de novembre.
Comment t'as atterri ici?
C'est parce que je connaissais un ami qui travaillait en ambiance bois, qui avait voyagé au Cameroun. Ça m'a donné envie de voir d'autres moyens aussi, d'autres manières que d'autres gens y travaillent.
Et lui, tu faisais quoi au Cameroun?
Moi, j'ai été toujours un mécanicien, surtout automobile.
T'as fait une petite famille?
Non, pour l'instant, je suis seul. Je suis seul. Bon, j'habite avec mes amis aussi, qui travaillent aussi à Ambiance Bois.
Ouais, ouais.
On est ensemble, on partage.
Ça va, t'es bien, t'as envie de rester?
Oui, ça me donne envie. Jusqu'à maintenant, des choses que j'ai projetées à faire, ça me donne envie de rester. Ça me donne envie de rester.
Combien tu fais d'heures par semaine?
35 heures.
On est 35 heures.
Oui, on travaille 4 jours par semaine, lundi à jeudi. On a souvent les réunions le vendredi pour faire les plannings d'ambiance bois pour la semaine prochaine.
Et donc, toi, tu fais la mécanique, hein?
J'ai fait la mécanique.
Mais c'est une vieille machine, ça, non? Anne?
Oui, c'est une vieille machine qui doit dater d'avant la guerre, je crois. On a récupéré en Alsace et qu'on a démonté. En fait, ça, c'est un système de siège qui est très, très peu connu.
Ah oui, c'est ça, c'est l'âme, là. Voilà. D'accord, d'accord.
C'est comme un tranche-tomate, en fait.
Oui, tout à fait. C'est comme, ouais, oui, comme pour trancher le pain.
Voilà, c'est ça. En fait, toutes nos installations, on les fait en interne, donc avec Edwin et Philippe. Ça fait partie de nos choix, comme on a voulu nous-mêmes faire notre projet de création d'entreprise, nos études financières, etc. C'est une manière de garder la maîtrise du projet, quoi.
Michel, l'auteur du livre, un des fondateurs d'Ambiance Bois et cofondateur de Télé 1000 Vaches.
Donc toi, Michel, tu fais partie des fondateurs de cette aventure.
Oui, du groupe de départ.
Et puis, tu es l'auteur du bouquin Sillon.
Travailler autrement.
Sillon, travailler autrement. Alors, raconte-moi un petit peu la genèse de l'histoire.
La genèse, c'est d'abord des rencontres quand on a 18, 19, 20 ans à l'époque, avec Marc, Olivier, Anne, Catherine, Philippe, que tu as pu croiser ici. En fait, on se posait la question les uns les autres, comme on doit se la poser à peu près quand on a 20 ans, qu'est-ce qu'on va faire dans notre vie qui nous branche, qui corresponde à quoi on rêve, etc. On avait déjà eu des expériences de passer des vacances ensemble, de faire des trucs comme ça, puis on trouvait un peu débile finalement de partir chacun dans notre coin à avoir chacun notre petite carrière professionnelle, etc. Et donc, l'envie, c'était de continuer à faire quelque chose ensemble.
Ah, vous étiez des scouts protestants?
Alors, on s'est retrouvés dans des mouvements de scoutisme unioniste, ça s'appelle, oui, d'origine protestante, mais on n'était pas tous protestants, du reste. Ça, c'est les années 60, fin des années 70, début des années 80. C'était un milieu assez hétérogène, assez intéressant de ce point de vue-là, où on pouvait croiser des gens assez traditionnalistes et des gauchistes invétérés. Voilà, c'était une espèce de mélange comme ça qui était assez enrichissante. Et en fait, nous, ce qu'on y a vécu, c'est l'idée de pouvoir construire des projets ensemble et de les mener à bien en s'éclatant pas mal, quoi. Et en fait, on avait envie de continuer ça.
Au début, on était étudiants, hein, on était tous étudiants. C'est là où on a eu l'occasion.
C'est quoi vos origines sociales aux uns et aux autres?
Je dirais classe moyenne aisée, quoi.
D'accord.
On n'était pas destiné à être ouvrier de Syrie, si c'est ça ta question.
C'est ça ma question.
Voilà.
Et d'accord. Bon, donc, vous voilà un scout protestant.
Genre de protestant, je suis gauchiste.
Si on met la machine en route, là, on est fichu. On peut aller ailleurs.
Ok, si non, on continue. C'est bien.
Les bois sont sciés, ensuite ils sont séchés, et après le séchage, il faut les transformer, puisque tu as des bois bruts, et il faut en faire un produit fini. Le bruit qu'on entend, c'est le passage du bois brut à du bardage.
Vous le refaisiez comment, le monde?
comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens, je pense, surtout quand on a, je sais pas, surtout
18 et 25 ans, on avait fait beaucoup d'animations, on avait fait des camps ensemble, certains on se connaissait depuis qu'on était gamin. On faisait partie des éclaireurs unionistes de France, on vivait déjà la mixité dans ce scoutisme-là, on vivait des aventures, on vivait déjà une partie un peu d'autogestion.
Les gens qui avaient été nos propres responsables quand nous-mêmes on était plus jeunes, c'est les gens qui avaient fait 68. Donc on a quand même beaucoup baigné dans ce milieu-là. Et puis après, nous-mêmes, quand on est devenu responsable, on a beaucoup parlé avec les enfants et on a essayé de le vivre dans des expériences ponctuelles avec des enfants. On a beaucoup parlé d'autogestion, de prendre en charge des projets, de les construire soi, de prendre en charge sa vie, d'être engagé aussi dans la société, parce que ça fait partie des valeurs importantes qui sont portées par ce genre d'association. Et puis on s'est dit, on peut pas prôner ça auprès des gamins et le vivre ponctuellement pendant des expériences de vacances pendant l'été. Et puis après, le reste du temps, on oublie tout ça et puis on fait son petit travail, son petit train-train, sans se poser plus de questions. Il fallait qu'on vive nous-mêmes ça et qu'on le mette, que les discours théoriques ou les pratiques ponctuelles qu'on pouvait avoir pendant les vacances, il fallait que ça puisse être une réalité de tous les jours et toute notre vie.
Vous amenez une réflexion toute bête, c'est que on voit que toutes les entreprises ont un but, le profit.
Je ne sais pas si c'est toutes les entreprises.
Ah oui, si.
Nous, je ne crois pas. Nous, le but, pourquoi on a créé cette entreprise au départ? On n'a absolument pas des âmes d'entrepreneur. Ce n'était pas du tout notre truc de dire on va créer notre entreprise, on va la faire grossir, etc. Notre but, c'était de dire on veut montrer qu'on peut travailler, même dans des entreprises de production, même sur des boulots difficiles, pénibles, fatigants, dangereux, il y a moyen de travailler dans des conditions humaines correctes. Et puis, on veut montrer qu'on peut gérer une entreprise collectivement. C'était ça nos paris, en fait.
Là, il y a une montagne de sûr. Qu'est-ce que vous en faites de l'acier? Vous faites des poêles à sûr, non?
Alors, un des gros soucis de ce type d'activité, c'est les déchets, puisqu'on produit quand même 75% de déchets pour 25% de produits finis. Et maintenant, on arrive à peu près à gérer tous nos déchets, c'est-à-dire on en vend pour faire des panneaux de particules, on en vend à la mairie pour chauffer les bâtiments communaux. Nous, on en achète aussi pour nos chauffages personnels. On en achète ou on récupère, ça dépend des déchets. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, tu vois, il y a une partie des déchets qui vont aussi alimenter la chaufferie du séchoir, c'est-à-dire recyclage interne, je dirais. Ben voilà, maintenant, on arrive à peu près à gérer tous nos déchets. Mais c'est
un paysage beau. Magnifique, hein, ce qu'on voit là autour. Hein. C'est absolument magnifique. Hein. Aujourd'hui, il fait un temps super.
On ne connaissait pas du tout le monde rural. Et toute la question du développement local, de choses comme ça, c'était des notions qui nous étaient très étrangères. Mais on s'est quand même dit, ça nous intéresserait tant qu'à faire de ne pas être dans une région très favorisée. Enfin, il y avait un petit défi comme ça, ou je sais pas. Et puis après, il y a eu du hasard. Il y a eu un hasard qui nous a fait mettre un pied dans le plateau de Mille Vaches. Et puis, du coup, on y est resté.
Tu te souviens la première fois que tu es arrivé ici?
Ah oui, très bien.
Alors?
Bah, il neigeait, c'était à Noël. On était à 5 dans une 2 chevaux. Et on suivait le chasse-neige autour du lac de Vassivière en se gardant bien de le dépasser parce que sinon on serait enfoncé dans la neige. Voilà, et on a passé 4-5 jours ici à retrouver des contacts que certains d'entre nous avaient déjà eus. Et c'est vrai qu'on a eu toute une période où c'était assez extraordinaire parce que chaque fois qu'on venait, chaque personne qu'on rencontrait nous redonnait encore une demi-douzaine de contacts qu'on allait voir et ça continuait et la chaîne continuait comme ça. C'est vrai qu'il y avait quelque chose d'un peu magique dans cet accueil comme ça en chaîne où les gens vraiment prenaient le temps de recevoir des gamins de 18 ans qui annonçaient qu'ils avaient un projet de scierie alors qu'ils ne connaissaient pas le début, quoi.
Mille vaches, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il y a d'abord l'école latine qui considère que ça vient de Melo Vacua qui signifierait montagne vide. Ça c'est pas bête ici, il n'y a pas fou.
Puis alors, l'autre aspect, c'était de se dire, on avait un discours sur le travail aussi. On disait, non, ça nous intéresse pas. Moi, je me vois pas avec un patron, je me vois pas patron, je sais pas quoi. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit autrement, que ce soit différent? Et en gros, je caricature un peu, mais on s'est dit, il y a deux manières de changer les choses. Soit on fait de la politique, on s'engage dans un parti ou quelque chose, et puis on essaye de faire bouger les choses par ce biais-là. Soit, puis c'est cette voie-là qu'on a choisie, on y va de manière plus expérimentale, de manière sur du concret. On va monter une entreprise pour y travailler autrement. Il y avait vraiment ça dans le début d'Ambiance Bois, qui s'appelait pas Ambiance Bois, qui était même pas une scierie à l'époque, parce qu'on savait même pas ce qu'on fabriquerait ni ce qu'on travaillerait comme matière.
Mais il y avait un projet politique au sens large, disons.
Ah oui, bien sûr, il y avait que le monde qu'on nous proposait, et en particulier dans le domaine du travail, dans le domaine de l'économie, etc., nous satisfaisait pas. On pouvait pas se retrouver là-dedans. Et donc, on avait envie de bâtir autre chose. Pour nous, d'abord, pour nos vies. Et puis, en se disant, c'est aussi une manière de répondre à la question, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, vous avez fait quoi? Vous avez créé cette boîte?
Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va monter une entreprise, et dans cette entreprise, on travaillera comme on rêve qu'il faut travailler.
Et dans les choses qu'on remettait en cause, il y a quelque chose qui nous paraissait très injuste, c'est que dans le domaine du travail, il y avait ceux qui décident, puis il y avait ceux qui exécutent. Ça ne nous paraissait pas juste. La deuxième chose qui nous paraissait incontournable, c'est qu'on a besoin, pour vivre, d'un ensemble d'outils, d'objets, etc. Est-ce que pour réaliser ces objets, depuis les objets alimentaires jusqu'aux objets pour se vêtir ou habiter, on a besoin d'être un esclave? Et on visait, on voyait, on regardait le mode de fonctionnement. En gros, il y a des esclaves qui mettent sur le marché des biens de consommation, et puis qui vont vivre toute leur vie pour travailler et non pas travailler pour vivre.
Est-ce que vous rêviez d'une rupture avec le capitalisme, pour reprendre la terminologie de l'époque?
On se méfiait beaucoup des slogans tout faits. Et on était beaucoup plus proche, sans le savoir à ce moment-là, de gens comme Godin ou autres, qui étaient des praticiens. C'est-à-dire, les théories, c'est sympa, on en a besoin pour essayer de se fonder un peu une direction, puis ensuite, il faut le vivre. Godin, le familistère de Godin, les poils Godin, toute cette expérience qui a duré presque un siècle, qui s'est arrêtée en 68, est assez rigolo, avec une merveilleuse modification dans les rapports sociaux et dans le travail, avec quelqu'un qui a inventé l'école pour tous, qui a inventé, etc., mais qui l'a pas inventé tout seul, qui l'a inventé avec les autres, et au final, qui était ouvrier comme les autres. Et ça, c'est assez exemplaire. Alors, il y a un musée Godin à Guise, là, dans l'Aisne, et je trouve que c'est intéressant que cette histoire-là, elle soit réintroduite dans l'histoire de France, parce qu'elle a été oubliée, y compris par la gauche, la gauche idéologique, parce que c'est un peu gênant.
Qu'est-ce que t'appelles la gauche idéologique?
La gauche idéologique, ça date pas d'aujourd'hui, c'est celle d'il y a après un siècle ou deux, c'est celle qui va monter des grosses théories, qui va dire que la révolution, ce sera une fois qu'on aura tout mis par terre, etc., et qui va mal considérer tous ceux qui vont dire, on va essayer ici et maintenant et aujourd'hui de commencer à se mettre en marche. Avec toutes les erreurs qu'on pourra faire, mais on va essayer. Voilà. Et ça, je pense qu'effectivement, ça a été occulté. Il y a un petit pan de l'histoire, de la mémoire qu'on a mis de côté. Et nous, on a redécouvert cette histoire-là il n'y a pas très longtemps. L'histoire de Godin et du familistère.
Mais vraiment, finalement, on pourrait résumer ça comme ça. Ce qu'on voulait faire, fabriquer avec Ambiance Bois, c'était pas du parquet, du lambris, des maisons, c'était de l'expérimentation sociale. C'était vraiment ça le point de départ. Alors évidemment, après, on se confronte au bois, aux matériaux, au parquet, au lambris, à la maison, ce qui était un peu le support de ce désir et de cette ambition.
Voilà, fabriquer de l'expérimentation sociale. C'était le but, en tout cas c'est un but qui est apparu, c'est une idée qui est apparue, chemin faisant. L'histoire d'Ambiance Bois, c'est l'histoire d'une expérience, d'un tâtonnement, en tous les cas de quelque chose d'expérimenté et de vécu. Alors collectivement, c'est un groupe, une partie des collaborateurs ou des membres, je ne sais pas très bien comment dire, d'Ambiance Bois, vivent sous une forme communautaire, ensemble, et puis d'autres vivent chacun chez soi, dans des maisons,
dispersés, disons. Et si vous voulez aller les voir, ne venez pas le vendredi matin, parce que le vendredi matin, sur la porte, vous pourrez lire « fermé ». Fermé, pourquoi ? Parce que c'est le jour où tout le monde se réunit pour décider de la marche de l'entreprise. Alors, il y a des sujets très généraux, des sujets particuliers, le programme, les plannings, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Mais ça, c'est les décisions, les débats sont... On a assisté avec Antoine Chao à cette réunion. C'est très bien fait, ils sont très malins, ils ont l'habitude d'être de se réunir, ils ont l'habitude de que chacun donne son opinion, mais assez vite, sans qu'on perde trop de temps, et d'arriver, bien on peut prendre la décision tout de suite, ou bien non, on n'y est pas arrivé, donc on remet ça à plus tard, etc. Et voilà, c'est une gestion où chacun a... Il n'y a pas une voix plus puissante, plus ascendante que les autres. Alors, c'est des vieilles rêveries, on dira, oh là là, mais ça, c'est des vieilles utopies. Oui, bien sûr, c'est des utopies jusqu'au moment où ça devient vrai, ça existe depuis des années, c'est une pratique utopique. Ils adorent dire ça, d'ailleurs. Pratique utopique. Mais ça fonctionne, et c'est quand même assez passionnant. Alors, voilà, vous avez vu, je dis pas les noms des uns et des autres, parce que, ben voilà, il y a tout ce côté collectif. J'ai bien l'impression que les uns auraient pu dire ce que disent les autres, tant il y a quelque chose, effectivement, de consensuel dans tout ça. Hein. Ils élaborent leurs idées, tout comme leur travail, ensemble. Et d'ailleurs, ils nous l'ont dit, ils changent de poste. Hein. En gros, on change de poste, évidemment, si c'est un poste très, très dur, et s'il y a une des jeunes femmes qui attend un bébé, elle va pas faire ce boulot-là. Mais sinon, à peu près tout le monde sait faire à peu près tout, peut faire à peu près tout dans cette entreprise. Donc, 4 jours de travail par semaine. Il y a du temps partiel. C'est pas des très gros salaires, évidemment. Mais, voilà, on a vu des gens souriants, assez heureux, finalement, visiblement, apparemment, qui essayent de travailler autrement. Mais est-ce que c'est complètement écologique tout ça ?
Non. On fait beaucoup travailler EDF. Et justement, ça fait partie de nos réflexions. Quand je disais les projets pour Ambiance Bois, il y en a qui se disent ce serait bien de produire nous-mêmes notre énergie. Enfin, tu vois, tout ça, c'est des rêves. Peut-être qu'un jour, on le fera.
Énergie solaire ?
Non, ou avec nos déchets. Voilà, enfin, tu vois, ça fait partie d'idées, entre autres. Hein. Mais des idées, on en a à l'appel. Donc.
Alors, ce que vous avez de caractéristique aussi, c'est que vous vous impliquez individuellement et collectivement dans la vie locale, la vie associative.
Ben ça, c'est quelque chose que moi j'ai découvert en arrivant ici, en fait. Quand tu vis en ville, ce que j'avais toujours fait avant, en fait, c'est très anonyme, je dirais. Et c'est très difficile de toucher vite. Ici, en fait, tu connais tout le monde. Et ça devient très facile de devenir acteur, en fait, je dirais. Si tu as envie de faire des choses, tu connais très vite les gens, tu sais très vite où tu peux t'appuyer, etc. Et ça, c'est quelque chose que j'ai un peu découvert en arrivant ici. Tu vois, par exemple ici, on a participé à la création d'associations pour des activités pour les enfants. On a participé à la création de Télé 1000 Vaches. On a participé à des tas de choses comme ça. Et puis ça se fait tout naturellement. T'as quelques personnes qui se rencontrent et puis qui ont envie de faire des choses. Bah allez, allons-y et puis on y va quand on le fait.
Après l'Afrique, le mois dernier, nous voilà de retour sur le plateau de 1000 Vaches, à 1000 Vaches justement, au cœur du plateau, c'est en Corrèze. Nous sommes installés ici dans le café L'Aliron, c'est le lieu de vie du village, c'est l'unique commerce de 1000 Vaches. C'est ici chez Nanou, et chez Nanou, ce soir, c'est plein à craquer, c'est le 110e numéro du magazine du plateau, bonjour à tous.
Samuel, c'est toi l'animateur là. Hein. Alors là, on vient de voir le générique de Télé 1000 Vaches, c'est le numéro 110, et vous avez commencé cette histoire... En 86.
Ça fait effectivement 18 ans que Télé 1000 Vaches existe sur ce territoire qui est le plateau de 1000 Vaches. Donc en 1986, des jeunes qui sont venus s'installer ici et qui ont créé en parallèle une activité de scierie. ont eu l'idée de créer un magazine vidéo justement pour échanger, pour permettre que les gens se retrouvent autour de sujets, de thématiques qui les concernaient. Donc Télé 1000 Vaches est né comme ça, avec dans un premier temps un système de diffusion un peu rigolo qu'on a labellisé Télébrouette, c'est-à-dire que un animateur se déplaçait avec son magnétoscope, sa télé, pour aller dans les lieux de vie du plateau de 1000 Vaches pour montrer la cassette aux habitants. Depuis 93, on a changé un petit peu notre système de diffusion, parce que maintenant c'est la Poste qui fait le lien entre nous et puis nos spectateurs. On envoie tous les mois 300 cassettes à travers ce territoire qui est le plateau de 1000 Vaches. Les gens ont maintenant l'habitude.
À qui vous envoyez 300 cassettes ?
Alors on envoie des cassettes dans les mairies de toutes les communes. Environ 123 mairies ici sur ce territoire. Donc toutes les mairies reçoivent nos cassettes. Puis c'est des commerçants, le boucher du village, la bibliothèque, l'école, des particuliers.
Qui est abonné ?
Qui reçoit la cassette gratuitement parce qu'il a bien voulu ou parce qu'on l'a sollicité, et qui cette cassette il la distribue gratuitement, c'est gratuit hein, quand on veut regarder les Télé 1000 Vaches dans sa zone d'influence.
Là donc on est où ?
Là on est à 1000 Vaches, c'est un petit village d'une centaine d'habitants. Tous les trois mois on se déplace dans une commune et on fait un magazine entièrement consacré pendant une heure et demie à une commune du plateau de 1000 Vaches. Donc là on a été dans le lieu de vie du village qui était le café. Voilà, un petit coup ça fait du bien. Je voulais juste vous présenter peut-être avant que je discute avec Nanou.
Café La Liron chez Manou. On est de retour au bistrot. Les images sont superbes. Hein. On voit le petit pépère qui écoute, vachement attentif. Le gars dans le fond, t'as vu son verre qui descend. Le gars qui est au comptoir, à chaque plan, hop, il boit son petit coup, il écoute. Et là, la bière descend. Il y a la petite dame, la main sur le chat et tout. C'est très beau, hein. Vous faites du beau boulot. Mais enfin, vous faites du beau boulot, c'est beau. Mais en même temps, vous montrez des choses dont on ne parle pas beaucoup ni dans Le Monde, ni dans Libération, ni dans Le Figaro, ni à TF1. Jean-Pierre Pernaut ne parle pas de ça, par exemple.
Non, il parle du dernier sabotier du village ou de la dernière bergère.
C'est une folklorisation honteuse. Voilà. Ouais.
Un regard complètement urbain, alors que aujourd'hui la campagne, c'est plus les sabotiers et l'agriculture d'autrefois. La campagne, l'image de la campagne a beaucoup évolué, et c'est ce qu'on essaye de montrer, nous, avec une image un peu objective, avec des préoccupations qui sont celles de nos campagnes. La disparition des services publics, c'est quand même quelque chose de très important ici. Montrer aussi que sur ces territoires-là, très ruraux, tout est possible. On peut vivre à la campagne, quoi qu'on en dise.
Il y a des choses différentes, c'est-à-dire il y a à la fois la difficulté d'un pays qui a vu ses enfants partir parce que économiquement on pouvait plus vivre ici. Donc ça fait quand même quelque chose de très lourd. Et puis en même temps, c'est aussi un pays de résistance. C'est aussi un pays, par exemple, Martin Nadeau, donc les maçons de la Creuse, qui ont été très actifs au moment de la Commune. Ce sont des gens qui se sont alphabétisés. Donc c'est des gens qui sont partis faire les grands travaux à Paris, qui faisaient les maçons là-bas, qui restaient 10 mois par an à Paris, qui revenaient deux mois l'hiver, le temps de faire le bébé suivant à leur femme, et puis ils repartaient et de marier leur fille.
Comme les immigrés d'aujourd'hui.
Voilà. Et c'est des gens qui trouvaient le moyen en cours du soir de s'alphabétiser et de commencer à s'intéresser à la politique. Et c'est des gens qui ont été très actifs au moment de la Commune. Enfin, et tout ça, ça a ramené ici au pays, je dirais, aussi cette connaissance, cette réflexion politique, voilà. Et je pense que tout ça se retrouve un peu mêlé et imbriqué.
Ceux qui ont des heures de vol ont déjà entendu des voix comme celle-là, des propos comme ceux-là dans les années 70. Beaucoup ont tenté ces expériences, des expériences analogues. Si on prend un peu plus de recul historique des entreprises comme celle-là, on a évoqué l'histoire de Godin, hein, le Godin. Inventeur du familistère, et hier avec Serge Latouche, on évoquait ces socialistes de l'utopie au 19e siècle qui ont essayé de trouver des alternatives au capitalisme tel que nous le connaissons, puisque celui d'aujourd'hui ressemble beaucoup à celui du 19e siècle. Sauf que là, d'Ambiance Bois, d'abord ça marche, ensuite ça marche depuis longtemps, et pourquoi donc ? Eh bien, on va peut-être pas, évidemment, on a toujours envie de poser la question, mais est-ce que c'est pas cette histoire de culture protestante dont vous êtes issu qui vous permet, à cause de tout le sérieux qui va avec,
espèce de sérieux, de modestie, de sens de l'organisation. C'est des clichés, bien évidemment, qui vont avec cette culture-là, croit-on, qui vous permet, qui explique cette réussite. C'est peut-être une explication, mais il y en a une autre tout simplement, c'est les statuts qui ont été choisis. Parce que tout ça c'est bien beau, les idées, les projets, c'est l'essentiel. Mais il faut aussi arriver à traduire ça sous une forme, disons, juridique de statut de l'entreprise. Et les gens d'Ambiance Bois ont choisi de se mettre en SAPO, une SAPO, S-A. On connaît la SARL, on connaît la coopérative ouvrière, mais il existe aussi la SAPO. Et voilà comment Michel Lulek nous explique le côté business, le côté administratif de l'entreprise.
Nous, quand on a démarré, on avait besoin d'argent. Et donc, on a fait appel à tous nos réseaux, nos parents, nos amis, nos voisins, des amis d'amis, etc. Et aujourd'hui, par exemple, dans Ambiance Bois, il y a 90 actionnaires. Sur les 90 actionnaires, donc il y a en partie la plupart des gens qui travaillent dans l'entreprise. Ça veut dire qu'il y a 70 personnes qui ont mis de l'argent dans l'entreprise il y a 15 ans pour que cette entreprise existe. Et donc, il y a des gens qui sont prêts à mettre du capital parce que ça les intéresse et que d'une certaine manière c'est plus producteur de richesse, pas forcément financière, que de le mettre ailleurs.
Oui, il y a quand même un choix là.
Bien sûr.
Chez vous, le capital, l'actionnaire ne peut pas avoir le pouvoir. Dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, enfin dans l'économie financiarisée, c'est l'actionnaire qui a le pouvoir et finalement le patron n'a même plus le pouvoir.
Voilà, tout à fait.
Alors, le patron est téléguidé par les actionnaires et il est obligé de virer 1500 gars là, 3000 là-bas, parce que voilà, il faut qu'il fasse le sale boulot en plus, ouais. Celui qui fait le sale boulot. Alors, vous, comment vous avez fait pour que l'actionnaire ne puisse pas prendre le pouvoir?
On a opté pour un statut juridique de société anonyme à participation ouvrière, qui nous laisse, la loi nous laisse libre de définir quelle va être la part qui va revenir en termes de pouvoir dans l'entreprise au capital et au travail. Donc nous, on a fait le choix 50-50. Donc concrètement, en assemblée générale d'Ambiance Bois, quand on se réunit et qu'on est amené à voter ou à prendre des décisions, il y a 50% des voix qui s'expriment qui représentent les gens qui ont ramené du capital, et il y a 50% des voix qui s'expriment qui représentent les gens qui travaillent dans l'entreprise. Alors pour nous, c'est vrai que toutes les statuts classiques de société anonyme, société à responsabilité limitée, etc., ne donnent du pouvoir qu'au capital, puisque il faut avoir mis de l'argent dans le capital pour avoir un pouvoir sur l'entreprise. Donc le travail c'est zéro dans tous ces statuts-là. Il y a le statut de la SCOP, des sociétés coopératives ouvrières de production, qui reconnaît au travail une place en ce sens que ce sont les travailleurs qui doivent être actionnaires de l'entreprise, c'est-à-dire que majoritairement les gens qui travaillent dans l'entreprise doivent amener le capital. Mais nous on se trouvait dans un cas de figure où nous qui allions travailler on pouvait amener une partie du capital, mais loin de la totalité, même loin de la moitié. Et donc, il a fallu faire appel à des gens qui n'allaient amener que le capital. Et ces gens-là, on s'est dit, il faut qu'ils aient leur place, leur mot à dire, leur place aussi dans l'histoire d'Ambiance Bois, que ce soit pas seulement des gens qui ont amené de l'argent, mais il faut aussi que cette place soit là encore mesurée. C'est-à-dire que ça soit pas le capital qui prenne toute la place, d'où le choix de ce statut et des actions de travail.
Alors, tu dis, le pouvoir des actionnaires se limite à la moitié. 50%.
Des actionnaires en capital ou en travail. Si on avait à voter en Assemblée Générale, on vote au prorata du nombre d'actions qu'on détient. Donc quelqu'un qui a 100 actions, il a 100 voix, quelqu'un qui a une action a une voix.
Sur la marche, sur la vocation, sur la vie de l'entreprise, sur ce que l'entreprise va faire, sur les projets d'entreprise, qui décide? C'est la part capital ou la part travail?
C'est essentiellement la part travail.
Mais les actionnaires veulent toucher les dividendes. Si vous leur dites, voilà, nous, avec les bénéfices, on va investir dans un truc qui, de toute façon, ne fera aucun bénéfice, est-ce qu'ils vont marcher?
Alors, nos actionnaires, si au départ, ils avaient voulu toucher des dividendes, ils ne l'auraient pas mis à Ambiance Bois. Jusqu'à présent, c'est plutôt eux qui nous disent, mais vous n'êtes pas assez payés, mais ceci, mais cela, arrêtez de nous rémunérer et faites un peu des choses pour vous. Enfin,
c'est le drôle d'actionnaire.
Mais c'est le drôle d'actionnaire, c'est sûr.
Mais si vous leur dites, bon, écoutez, on fait des bénéfices, on voudrait financer, je sais pas quoi, moi, un film qui risque de pas marcher, et ils vous disent ok, nous on veut pas parce que ça rapportera pas d'argent, nous on veut toucher des... Qui va trancher?
En fait, dans la vie d'Ambiance Bois, je peux pas dire que ça se passera toujours comme ça, mais jusqu'à présent, il s'est toujours passé qu'on n'a jamais voté, ni en équipe, ni en conseil d'administration,
en Assemblée Générale, bien obligé, parce qu'il y a quelques votes statutaires à faire, mais ceux-là, voilà. Mais on n'a jamais voté pour trancher des décisions comme celle-là ou comme une autre. On a toujours considéré que des décisions très importantes, pour lesquelles il y avait des accords, eh ben, il n'y avait pas urgence à les prendre. Donc si on n'est pas d'accord, on continue à discuter, ou alors on arrête de discuter, on laisse reposer, on reprend 3 mois plus tard. Et en fait, l'idée, c'est...
On attend un consensus.
Et c'est quelque chose qu'on n'a jamais formalisé au départ. On n'avait jamais décidé
consensus
ça.
Consensus informel.
Ben voilà.
Une inconnue sur le planning de la semaine prochaine, c'est ce qui concerne le chantier de Monique Leriteau, dans la mesure où Benoît a un peu mal fait. À cause de son genou.
Alors voilà, la fameuse réunion du vendredi matin, tous les collaborateurs des associés d'Ambiance Bois sont là, il fait très beau, et on en profite pour faire une petite escapade, on sort dehors dans le silence, enfin, de la Syrie, et on a une petite discussion avec Claire Chola.
Toi, tu dis, moi je suis une pièce rapportée, c'est-à-dire que tu fais pas partie des pères fondateurs, des créateurs de.
C'est ça. En fait, on est arrivé il y a 5 ans ici. On vivait dans un.
C'est-à-dire ton mari et toi.
Mon mari et moi, on vivait dans un monde très classique d'entreprise. On était salariés de sociétés classiques avec un patron.
Mais qu'est-ce que tu faisais précisément?
Alors moi, j'ai travaillé dans une agence de communication à Paris où on faisait de la presse d'entreprise. J'ai travaillé dans une chaîne de parfums. J'ai travaillé dans une école de commerce où il fallait que je trouve des débouchés pour les étudiants. Enfin, j'ai fait diverses choses. Mais il me manquait quelque chose et j'étais pas forcément très heureuse dans cette façon de travailler. C'est-à-dire, j'ai un patron qui me dit « faut faire ça ». Alors on le fait, on n'est pas forcément très heureux et puis on aimerait pouvoir participer plus aux décisions, donner son avis, être un peu plus dans l'actif, quoi.
Mmh.
Voilà. On connaissait Ambiance Bois depuis quelques années, et puis ça fait le chemin dans notre tête. On a réfléchi assez longtemps, parce que c'était quand même un changement radical de vie. On passait de Paris à Faux-la-Montagne. Et ma foi, on a pris la décision en se disant, c'est pas plus tard qu'il faut la prendre, c'est quand on a 30 ans, il faut... Enfin, on s'était donné cette limite.
T'as quel âge ?
Là, j'ai 36 ans.
Et puis, c'était pas du tout les mêmes revenus.
Alors voilà, ça c'était aussi un point quand même sur lequel on a réfléchi un certain temps. Il se trouve que là, on a un salaire de base qui est équivalent au SMIC, un peu plus que le SMIC, je saurais pas, 15% de plus. C'est sûr que nos revenus ont été divisés par 2 ou 3. Mais, je dirais que moi, j'y gagne en richesse de rencontres, en qualité de vie. On habite à la campagne, on va aux champignons, le matin, on va par la forêt au bureau, et puis on est à temps partiel. Ce qui est important aussi pour avoir une vie plus cool. On vit plus en cohérence aujourd'hui ici qu'on ne pouvait le vivre ailleurs où on disait ben on n'est pas, on préférait vivre mieux, participer à la vie quoi. C'est-à-dire s'investir, être plus utile que je ne l'étais avant des parfums par exemple. Alors c'est pas politique hein, mais c'est peut-être plus authentique. Alors c'est peut-être aussi le fait qu'on fasse du bois. Déjà, c'est un matériau plus noble qu'autre chose. Et un sens politique, en effet, dans le sens où on essaie de valoriser la région, qui est une région assez pauvre, et d'être acteur dans notre région qui gagne à être connue et qui a besoin de dynamisme, quoi.
Mais alors, vous êtes en connexion avec des entreprises comparables. Est-ce qu'il y a l'idée de développer un réseau ou bien vous dites non, bon, c'est quelques expériences comme ça et puis voilà, est-ce qu'il y a une ambition là de...
Il y a un réseau qui existe d'entreprises entre guillemets un peu alternatives qui fonctionnent un peu de la même façon que nous. On a des relations assez étroites avec ce réseau qui s'appelle le réseau Repas, réseau d'échanges alternatives et solidaires. Voilà. Alors on a fait ce qu'on appelle un compagnonnage de jeunes qui veulent voir un petit peu ce qui se passe ailleurs que dans les entreprises classiques. Ça dure quelques mois et ils passent par les différentes entreprises, ils ont des choses à faire. Voilà.
Est-ce que c'est une histoire qui peut servir d'exemple ou bien, bon ben voilà, c'est une aventure unique, un petit groupe de personnes qui fait son petit carré, son petit ça me suffit. Bravo, c'est déjà pas mal après tout, hein. On peut très bien se contenter de ça, et puis voilà. Ou bien, est-ce que tu penses que ça a un caractère d'exemple, tu aimerais que d'autres fassent la même chose et que peu à peu, un grand soir inattendu.
Alors, nous, on est toujours très réticents et très prudents par rapport à l'idée d'exemple, en ce sens exemplaire, modèle. Hein. Donc, on n'a pas fait Ambiance Bois en espérant que demain, il y en ait 1000 et c'est pas pour ça qu'on l'a fait. Par contre, je pense que c'est un exemple dans le sens plutôt un cas parmi d'autres. Voilà, ça, c'est possible. N'importe qui, finalement, s'il n'est pas tout seul, je pense que pour nous, enfin, il y a une dimension très importante dans notre histoire, c'est qu'on n'a jamais avancé en solitaire, isolé les uns des autres. C'est une aventure collective. Et ça, moi personnellement, si je me regarde aujourd'hui derrière, je me dis, moi, j'aurais jamais pu faire ça tout seul. J'ai absolument besoin des autres pour le faire. Donc j'imagine que des gens qui ont envie de faire quelque chose qui corresponde à leurs aspirations profondes en termes de qu'est-ce que je vais faire dans la vie, quelle place je vais donner au travail, etc. Se réunissant à plusieurs, eh ben, c'est possible.
Voilà, c'est possible. Merci à tous. Merci à Ambiance Bois. Je rappelle le titre du bouquin de Michel Lulek, Sillon. Travaillait autrement avec une préface de Serge Latouche. Technique aujourd'hui Sandrine Laurent et Philippe Jeanne, Yann Chouquet, Pascal Pascariello et Christophe Imbert, c'est l'équipe de La Basse J'y suis. Le numéro du répondeur, vous le connaissez, c'est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Le mail daniel.mermet@radiofrance.com. C'est Antoine Chaot qui a réalisé cette émission modeste et géniale. On se retrouve demain à 17h pour La Basse, si j'y suis. Il va être 18h dans quelques instants. Je vous laisse après la pub que voici avec Frédéric Bonneau pour Charivari. Salut.